Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes, d'ailleurs je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Tant, 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 tant. Jean 5, hier on avait déjà Jean 5, on en a parlé à souffle, aujourd'hui on a encore Jean 5. Le truc quand t'es pas réveillé, t'as la migraine avant de commencer. Et pourtant c'est somptueux, c'est chaque ligne de Jean 5, on pourrait faire une homélie. Enfin chaque idée, et il y a tellement de choses. Alors la première chose c'est que, on va juste prendre quelques points, après on reviendra sur Exode si on a du temps, il est quelle heure? Ok. C'est l'histoire du témoignage. Ce témoignage, il est important parce qu'on a besoin dans notre esprit d'avoir quelqu'un qui nous rende témoignage pour nous convaincre que Jésus est le Fils de Dieu. Et qui n'est pas juste un homme, un sage, un mystique, ou un maître, ou un gourou, ou je ne sais quoi. Jésus est bien plus qu'un simple maître, quelqu'un qui va nous donner une voix, il est la voix. Il est plus que quelqu'un qui va nous parler d'une vérité, il est la vérité lui-même, et il est en plus la vie éternelle en lui-même. C'est-à-dire que quand j'ai Jésus, j'ai la vérité, j'ai la vie, et j'ai le chemin qui mène vers le Père. Qui a Jésus a ça. En fait, je me suis pris la tête avec quelqu'un qui me dit, parce que j'ai dit que Jésus était venu pour juger les gens, le monde, mais pour que par lui, que tout homme qui croit, voit le Fils et croit en lui, ne périsse pas, mais soit sauvé. Ah oui, mais alors si on ne croit pas en Dieu, etc., si on ne croit pas en Jésus, on va en enfer. Ça veut dire que Jésus est venu sauver que ceux qui croient en lui? Je dis non! Il a sauvé tous les hommes, il te donne un cadeau, tu le prends, tu le prends pas. Mais t'es un vieux chameau pourri là qui est dans le désert, tu rames, et à côté de toi t'as une super source de jouvence qui va te redonner la jeunesse, qui va te désaltérer. Et tu dis, non, je boirai pas, je marcherai jusqu'au bout et je crèverai comme un... Alors t'avais une source de jouvence à côté de toi, t'avais un tuyau, t'avais plus qu'à aspirer, et t'aurais été... Eh ben non. Et voyez, et la foi, c'est cette image aussi grossière que j'ai prise exprès. Je marche comme un vieux chameau en train de me décomposer parce que le péché fait son œuvre de mort en moi. Et j'ai cette eau divine qui coule du sein de Jésus pour me désaltérer et qui me restaure et qui me donne la vie éternelle. Et parce que, mais il faut que je croie, c'est à moi de faire ça. Et voilà. Donc on n'est pas des vieux chameaux, nous ici on est des jeunes brebis du troupeau de Dieu. Donc c'est beaucoup plus sympa quand même que
que l'autre avec ses dents pourries et son odeur de chacal. J'aime bien les chameaux, mais ça a une drôle de tête quand même. Donc il y a, au niveau du témoignage, il y a trois témoins. Il y a, si vous avez vu, il y a d'abord Jean-Baptiste qui rend témoignage à la vérité et Jésus est la vérité. Il y a les œuvres du Père qui rendent témoignage à Jésus. Hein. Les œuvres, il y a plus que le témoignage de Jean. Il y a les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Hein. C'est le Père. Le Père témoigne en faveur de Jésus, qu'il l'a envoyé, qu'il est son Fils bien-aimé. D'ailleurs, au baptême, avant de le oindre, il y a cette parole, au moment où il le oint du Saint-Esprit, il y a quoi cette parole qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Hein. Tu es mon Fils bien-aimé. » À notre endroit, il dira à la transfiguration « Tu es mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Bref. C'est toujours cette, le Père témoigne, atteste que Jésus est le Fils de Dieu. On n'a pas d'alternative. Ce n'est pas un, juste un homme. Il est vrai homme et il est vrai Dieu, mais il est vrai Dieu. Et en tant que vrai Dieu, il a la puissance de... Et c'est pour ça qu'il est... Sinon, ça ne nous sert à rien. Sinon, sa mort et sa résurrection, ça ne nous sert à rien. Tu as beau mourir pour moi, je ne vais pas... Ça ne changera rien. Il n'y a que Dieu qui m'introduit en Dieu. Parce que Dieu est déjà en Dieu. Et Jésus m'introduit dans la relation avec le Père parce qu'il est déjà dans cette relation avec le Père. Quand il me saisit dans sa mort et sa résurrection, il m'introduit dans sa résurrection, il m'introduit dans la relation divine, il restaure cet axe d'alliance jadis cassé par le péché originel. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. N'importe quel autre qui aurait donné sa vie pour l'humanité avant dans une folie mystique n'aurait rien changé à nous. Rien du tout. C'est pour ça qu'aucun bouc, aucun bélier, aucun mouton bouc émissaire et aucun agneau pascal de l'ancienne alliance n'a jamais enlevé le péché du monde. Jamais. C'était des signes qui annonçaient l'agneau véritable qui enlève le péché du monde, qui est Jésus lui-même. Il y en a qui commencent à s'endormir. Hein, de dormir la nuit. Allez, continue. Le Père atteste que Jésus est le Fils de Dieu. Et le troisième, c'est la parole. La parole atteste que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc on doit se poser la question, est-ce que nous nous laissons interpeller par cette parole? Alors il y a plein de choses. Déjà, il y a Jean était la lampe qui brûle et qui brille. On va revenir juste sur Jean un petit peu. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Ça ne vous renvoie pas à un verset biblique? Vous êtes la lumière du monde. Je suis venu allumer un feu. La lampe qui brûle et qui brille, Jean, il est le signe aussi de ce que nous sommes dans la plénitude. Il est encore côté Ancien Testament, il est la jonction entre l'Ancien et le Nouveau, mais il est déjà, il est le plus, et il dit que le plus petit dans le royaume de Dieu, Jésus dit ça, il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc il est cette lampe qui brûle et qui brille, combien plus nous qui sommes dans le Christ, nous devons être une lampe qui brûle et brille aussi de cette flamme, de cette lumière du Christ. Ça veut dire que ça vient de notre unité. Et les gens, Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Vous avez voulu vous réjouir un instant à sa lumière, un moment à sa lumière. Je prie pour que les gens viennent se réjouir à notre lumière aussi. En venant, je viens te voir parce que je sais que quand tu me parles de Dieu, ça me fait du bien. Ça, c'est le plus beau témoignage de la vie de Christ en vous. Quand un jour quelqu'un vous dit ça, ça veut... N'allez pas vous dire, ouais, pétard, je suis vachement doué. Non, rien à voir. N'allez pas prendre une douceur complètement fausse qu'on détermine, qu'on repère immédiatement. Mais les douceurs douceâtres des doux mystiques, ça n'a jamais convaincu personne. Par contre, l'Esprit Saint qui vient et console dans les profondeurs, quand c'est l'Esprit Saint qui se communique à travers vous, prions pour que chacun d'entre nous, nous soyons cette lampe qui brûlons et brillons de la lumière même de Christ. Pour ceux qui ont été à Calcutta, on le dit ça tous les matins, notre lumière sera... on demande dans la prière qu'on soit la lumière. Cette lumière, ce n'est pas nous, mais c'est toi qui brille en nous. Tous les matins, les sœurs de Mère Teresa, elles font cette prière après la messe. Et c'est ça, Seigneur, donne-nous de briller de cette brillance, de cette lumière que tu es toi-même. Hein, que cette lumière ne vienne pas de nous, de nos bonnes œuvres, mais vraiment de toi. Et les œuvres que le Père m'a donné de réaliser, d'accomplir, on en a parlé hier à souffle. Ces œuvres, nous-mêmes, puisque nous sommes fils de Dieu, il nous donne de les accomplir. De même que le Père a accompli les œuvres du Père, parce qu'il voyait le Père faire ses œuvres et qu'il faisait les mêmes œuvres, et seulement les œuvres du Père. De même, nous qui sommes dans le Fils, nous devons accomplir les œuvres du Père, ce qu'on appelle la divine volonté. On fait la volonté de Dieu. On le dit dans notre Père tout le temps comme si c'était quelque chose un souhait pieux. Mais non, en vérité, c'est nous rentrons dans une objectivité, celle de la volonté propre de Dieu, nous offrons notre volonté propre à nous, nous y renonçons pour accueillir la volonté divine de Dieu, comme un cadeau qu'il nous fait pour pouvoir rendre parfait chaque chose que nous faisons, que nous conformons à sa volonté. C'est extrêmement important chaque matin de dire « Seigneur, je te donne ma volonté propre et j'accueille ta volonté divine dans mon cœur pour faire ta volonté divine. » C'est un truc que je fais depuis peu de temps et je trouve que ça donne une autre ampleur de tout ce que vous faites. Vous pouvez le dire plein de fois dans la journée, avant une messe, avant un machin. Vous remettez tout dans la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. C'est pas, Jésus a dit ça aussi à sa passion. Jésus a souffert dans sa passion, a agonisé à Gethsémani. Mais ce qui est beau, ça veut dire qu'il est vraiment homme, et il a souffert dans son humanité. Et pour le coup, il commence à avoir tout le péché, le poids du péché qu'il commence à porter, avant même de porter la croix, notre poids, pour notre rédemption. Et sa nature humaine aurait eu envie d'échapper à ça, comme nous, comme toute nature humaine normalement constituée. Jésus a vraiment eu une vraie nature humaine, il n'a pas fait semblant, donc il est normal qu'il ait peur, il est normal qu'il soit accablé par ce poids, et il est normal qu'il demande ça au Père. Et cependant, l'offrande de sa vie et sa consécration dans son humanité à la volonté du Père est plus forte. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et bien c'est exactement ce qu'on doit faire chaque jour dans notre vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et chaque matin, quand vous dites, ou chaque jour, quand vous dites, je t'offre ma volonté propre et je reçois ta volonté divine, eh bien c'est ça, non pas ta volonté, mais ma volonté. Dans les toutes petites choses de ma vie.
Le contraire.
J'ai dit le contraire. Bon, vous avez tout compris. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans toutes les choses de ma journée. Voilà. Et donc, il y a cette parole de Dieu qui est importante. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Il y a une série de reproches là. Il s'adresse quand même à des pharisiens qui sont des bons religieux. Hein. Il s'adresse à des bons cathos qui font le chapelet, qui vont à la messe. Ça peut être nous, hein. Ça s'adresse à des bons prêtres comme moi, ça peut être n'importe qui d'entre nous qui pouvons nous glorifier les uns des autres. Hein, on verra ça tout à l'heure dans un instant. Mais... vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne... on aura envie de dire, pas de notre faute, quoi. Facile de voir la voix de Dieu. En plus, Seigneur, excuse-nous, mais dans la parole de Dieu, il dit, nul ne peut voir la face de Dieu sans mourir. Donc, non. Hein, vous n'avez jamais vu sa face. Vous n'avez jamais entendu sa parole. Oui, eh ben oui, normal. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous. Donc, Jésus est en train de dire que on doit chercher à voir la face du Père. En tout cas, c'est ce que, grâce à lui, on peut. Non, on ne voit pas, mais on se tient devant le trône de Dieu. Donc, c'est nul n'a vu la face de Dieu. Mais qui me voit le Père. Donc, quand vous contemplez Jésus, vous voyez Dieu. Hein. Entendre sa voix, entendre la voix du Père. En Jésus, Jésus entend la voix du Père. Entend la voix du Père. La voix de Jésus, c'est la voix du Père. Ce que je dis, je l'entends, il l'entend de son Père avant. Puisqu'il y a une adéquation totale, on a vu, entre l'action, le dire de Jésus. En fait, il leur reproche de ne pas écouter sa parole. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous. Vous ne croyez pas que le Père m'a envoyé, d'accord? Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Donc, ils scrutent quand même les Écritures. Alors, déjà, c'est pas mal. Si vous aussi, hein, voilà. Combien de catholiques qui ne scrutent pas les Écritures? Qui n'ouvrent pas la Bible? Vous scrutez les Écritures, mais vous n'allez pas au bout du truc. Vous scrutez les Écritures, vous prenez le Magnificat, vous lisez vos textes, c'est ça, j'ai compris, je connais, ok, d'accord. Et vous, je me contente de lire le texte avec la tête, mais je ne les garde pas dans mon cœur. C'est ce que dit Jésus, hein. Sa parole ne demeure pas en vous. Dès que vous l'avez lu, vous l'oubliez. Vous l'avez lu, vous avez connaissé l'histoire, ah oui, c'est la femme samaritaine, ah oui, c'est... C'est le veau d'or, ah oui, je connais ce passage, voilà. Et vous dites, ok, j'ai ma case intellectuelle de la connaissance biblique, et elle est cochée. En rien, ça n'a, vous êtes passé d'un logos à un réma, c'est-à-dire une parole de vie qui va transformer, qui va... Et il faut vraiment passer de cette parole à logos intellectuel, à un réma, c'est un mot grec ou hébreu, je ne sais plus, mais qui donne vie en moi, puissance de vie. La parole de Dieu est puissance de vie, et elle féconde mon cœur. Et elle provoque la foi, elle fait naître la foi, elle fait que la foi repose sur ces bases solides de la parole de Dieu. Elle devient à ce moment-là un glaive qui permet le discernement et du coup l'ajustement de ma volonté dans le faire et dans le dire. Et elle est un feu ardent qui embrase mon cœur parce qu'elle m'introduit dans une connaissance nouvelle puisqu'elle est la source de la révélation de qui est Jésus, de qui est le Père. C'est par la parole de Dieu que ça va venir. Vous avez déjà fait l'expérience de textes que vous ne comprenez pas et tout d'un coup, il vous paraît lumineux. Un même texte que vous avez lu plein de fois, moi j'ai lu plein de fois Paul jusqu'à un moment donné où Paul est devenu lumineux. Et vous comprenez d'un coup des choses qui deviennent une révélation et qui ne vous quitteront plus. La parole de Dieu a fécondé votre cœur et elle a porté un fruit qui renforce la foi et qui fructifie en vie éternelle. Et cette parole de Dieu, elle est indispensable. Mais après, il y a une question de faire et de vouloir. Il leur reproche, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, pour la vie. Vous ne voulez pas. Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux n'est pas ce dont j'ai envie. Hein, on distingue bien toujours les deux choses. Mais qu'est-ce que je veux profondément? Vous ne voulez pas venir à moi. Alors eux, évidemment, ils ne veulent pas. Parce que ça remet en cause trop leur religiosité. C'est comme ces bons cathos qui ne veulent pas de la vie charismatique. C'est un choix. Je l'affirme dans le sens inverse. Je ne comprends pas. Ça veut dire tu prends ta Bible et tu dis non, ça non. Toute la partie Pentecôte, j'en veux pas. Toute la partie de 1 Corinthiens 12, 13, 14, 13 si j'en veux, c'est l'hymne de la charité. Mais 12 et 14, non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas le ministère des signes et des prodiges, des guérisons, etc. Non, j'en veux pas. Tu fais un tri dans l'œuvre du Saint-Esprit, tu fais un tri dans la parole de Dieu. Qui t'autorise à faire ça? Qui vous autorise à faire ça? Non, je veux pas du parler en langue. Non, je veux pas du charisme de prophétie. Non, je veux pas. J'ai la Sainte Vierge, j'ai Sainte Rita, j'ai l'Eucharistie, tout est très bien. Mais pourquoi ne pas prendre tout? Et surtout, pourquoi rester dans son propre agir ou son propre exercice religieux? Parce que c'est exactement le cas de figure dans lequel on est là. C'est rester dans son exercice religieux sans rentrer dans la nouveauté que l'Évangile, que la vie dans l'Esprit propose. Et je ne dis pas ça parce que je suis un prêtre charismatique, je dis ça parce que tout est dans la parole de Dieu. Et que ce n'est pas un catalogue où je pioche ce qui m'intéresse et je rejette ce qui ne m'intéresse pas, la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui anime l'Église, c'est l'Esprit Saint qui anime mon cœur. Être chrétien, c'est recevoir ce feu du Saint-Esprit qui fait de moi ce qu'il veut, pas ce que je veux. Saint-Esprit, j'ai besoin d'un peu plus de ça aujourd'hui. Saint-Esprit, j'ai besoin... allez vous faire voir, j'espère qu'il vous répond ça. Le Saint-Esprit n'est pas le boy qu'on appelle comme ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il reçoit même adoration et même gloire. C'est moi qui suis au service du Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui est à mon service. C'est pas Jésus qui est à mon service. Et c'est pas la Sainte Vierge qui est à mon service. C'est moi qui suis au service. C'est moi qui suis un serviteur. C'est moi qui obéis. C'est moi qui m'humilie. C'est moi qui courbe la tête. Ce peuple est un peuple à la nuque raide. Quand je fais que ce que je veux, y compris dans la religiosité, je suis désobéissant. Même si ça a un parcours, ça a un apparat pieux, mielleux et gélatineux, ça ne plaît pas à Dieu. J'ai fait un veau d'or qui a une forme de pieuserie, mais c'est un veau quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe en face de ça? La colère de Dieu. Super. Tu croyais faire des belles prières? T'as la colère de Dieu. Encore des auditeurs à Radio Maria, là? On va repartir dans le bon sens dans pas longtemps. Mais il faut casser pour reconstruire des fois, même tout le temps. Hein? Attention! Parce qu'on peut très vite dire, ça ne me concerne pas, moi je suis bien dans mon petit christianisme, mon petit catholicisme. Et non, toujours faut être en disponibilité à ce Saint-Esprit qui façonne l'homme nouveau, à l'image de Dieu, dans toute cette plénitude du royaume. Et cette plénitude du royaume... Cette bonne nouvelle, elle est manifestation de puissance dans l'Esprit Saint. Cette proclamation, elle n'est pas sagesse de Dieu, elle est proclamation de puissance, manifestation d'Esprit Saint. Et donc chacun d'entre nous, on doit être une manifestation d'Esprit Saint. Quand on est une manifestation d'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint nous anime, c'est l'Esprit qui est vie. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous a ressuscité et nous donne vie. Hein.
Et c'est pour ça que le Père et le Fils nous envoient l'Esprit Saint, parce que c'est ce principe de vie éternelle, c'est ce qu'ils se donnent l'un à l'autre, c'est ce qui garantit l'unité, c'est ce qui garantit notre unité avec Jésus, et c'est ce qui favorise notre unité entre nous, et c'est ce qui favorise notre unité intérieure. Là où le péché nous divise, l'Esprit Saint nous réunifie, pour qu'il y ait une cohérence entre l'Esprit ressuscité et la chair qui n'est pas. Et c'est ça avec mon offrande à cette action. Mais quand je dis non, je ne m'offre pas à cette action du Saint-Esprit en moi, j'ai peu de chances de ressembler à Jésus. Parce qu'en vérité, le Saint-Esprit, il témoigne en faveur de Jésus. Il y a d'autres témoins que Jésus va dire après. Il y a l'eau, le sang et l'Esprit qui témoignent. On l'aura peut-être plus tard. L'eau, le sang et l'Esprit. Et du coup, là, on est à la croix. L'eau, le sang qui jaillissent de son côté ouvert et l'Esprit que Dieu donne, que Jésus donne. Ça atteste que Jésus est le Fils de Dieu. Le centurion, au pied de la croix, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Et puis l'Esprit Saint en nous, il atteste aussi autre chose. L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Il atteste à notre esprit. Il dit, hé, t'es pas juste un... N'écoute pas le diable qui dit que t'es pécheur, que t'es pécheresse, etc. Écoute-moi, tu es la fille bien-aimée de Dieu, tu vois. L'Esprit Saint atteste. Il vient faire voler en éclats ce que le diable atteste pour attester lui ce que Dieu atteste de toi. Le Père rend témoignage à toi. Pas français ça, mais vous avez compris le sens. Le repère rend témoignage de qui tu es en vérité, dans les lieux célestes, dans la vérité que ce que le Christ a accompli. Oh, pas dans les petites misères de ta chair, on a tous les mêmes misères. Ça, c'est pas notre identité. Le diable veut nous identifier à ça, il veut attester que tu n'es que pécheur et que tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Mais Jésus, il atteste par la puissance de son esprit, et l'esprit atteste à notre esprit qu'on est enfant de Dieu, héritier, co-héritier, puisque nous sommes dans les lieux célestes avec lui. Et parce qu'on est ça, alors on va amener notre chair, notre identité humaine, à correspondre à cette identité divine, à cette identité de fils de Dieu. Si je suis le fils de Dieu, je vais m'adapter. Si un jour on me nomme président de la République, bon, ça n'a aucun intérêt. Si un jour je suis nommé pape, eh bien je changerai l'église. Ok, c'était pour vous détendre. Allez, on y va, il y a peu de chances que ça arrive. Et du coup, la gloire, cette gloire, elle atteste aussi du ciel. La gloire, c'est Dieu est glorieux. La gloire, c'est pas la gloriole humaine, etc. Ça, c'est un dérivé. La gloire, glorifier quelqu'un, c'est élever quelqu'un. Et quand on est dans le monde, eh ben on a tous, au fond de nous, on est tous destinés à la gloire et on a tous ce désir d'être glorifiés. Et dans le rapport mondain, on est un peu ça. Il faut se dire du bien les uns des autres. Et puis, à part d'ailleurs, tu peux dire beaucoup de mal. Ça, c'est hélas la réalité triste du cœur pécheur. Mais, et de l'hypocrisie. Mais, celui qui a, et c'est ce que reproche Jésus, hein, vous recevez la gloire les uns des autres. Vous recevez la gloire. C'est-à-dire, derrière ça, il y a le désir d'être aimé, de plaire. Vous recevez votre gloire. Oh, c'est bien. T'es une bonne chrétienne. Au premier rang, désolé, avec toi qui prends. T'es une bonne chrétienne. Oh, c'est bien. Je t'ai vu prier le chapelet. Oh, ça m'a édifié, ma sœur. Oh là là. Mon père, quand vous élevez l'hostie, c'est tellement transcendant. Oh, j'ai vu Dieu qui était derrière vous. Et là, t'as quoi? Tu sens que ça monte, ça te fait du bien. Mais oui, ça te fait du bien parce que c'est aussi, c'est bon de s'honorer les uns les autres. La question, le problème, c'est que si tu agis pour être honoré, ou pour attirer la gloire, pour être glorifié, c'est que tu agis pour le regard de l'autre. Et tu vas être très vite déçu de ça. Parce que agir pour le regard de l'autre, vous recevez la gloire les uns des autres, ça ne va pas aller loin. Et Jésus nous dit que nous devons recevoir la gloire de notre Dieu. C'est-à-dire désirer cette gloire, c'est-à-dire sa présence. Et le Père est fier de nous. Dieu nous donne la gloire et l'honneur et la puissance parce que tout ce qui est au Christ, il nous l'a donné. Et à lui l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.
Amen.
Normalement, l'Église aurait répondu ça. Et nous recevons cette gloire. Jésus dit, je leur ai donné la gloire en parlant de ses apôtres. Je leur ai donné la gloire. C'est fait. On n'a pas prié pour la recevoir. On doit poser l'acte de foi que la gloire, c'est sa présence de Dieu. Et l'Esprit Saint vit en nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée dans un but précis. Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Waouh ! Interpénétration de la Trinité et de nous dans la Trinité. Moi en eux, moi Jésus en nous, et toi Père en moi. Donc toi Père en moi qui suis en eux. Tu sais, c'est comme les cercles concentriques. Moi en eux, toi en moi. au cœur même de notre vie, personnelle et de l'Église, il y a la présence de Jésus qui est à la présence du Père, parce que le Père est toujours uni avec Jésus, et il y a l'embrasement de ce don d'amour du Saint-Esprit dans lequel nous sommes situés par notre union au Christ, simplement. Hein. Et nous sortons de ça dès l'instant qu'on veut faire notre volonté propre. Qu'on dit non. C'est très très fragile. C'est pas que Dieu veut pas, c'est que c'est nous qui faisons un pas de côté. On peut revenir très très vite, dès qu'on demande pardon, on revient immédiatement. C'est aussi facile d'entrer que d'en sortir. Dès qu'on demande pardon, paf, c'est bon. Écoute, Seigneur, je veux faire ta volonté, pouf. Pardon, je veux faire ta volonté. Eh bien, on revient. Il n'y a pas à gagner quoi que ce soit, parce que tout est déjà fait. Dès que je sors, je peux re-rentrer, ouf. C'est là que je veux être dans la protection de Jésus et dans la protection, dans cette atmosphère céleste du Père, hein. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez la gloire des uns des autres? Comme si cette gloire les uns des autres, elle obscurcit l'intelligence et le cœur. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez la gloire des hommes et non pas la gloire de Dieu? Centré pour la gloire et le pouvoir des hommes. Combien d'hommes vivent dans cet aspect-là? Ce matin, je disais à Saint-Flavien à l'église, j'ai déjà célébré une première messe, ça m'a rappelé en réécoutant cet épisode du Vaudor. Quand j'étais à New York, mes dernières vacances il y a quelques années quand même, j'avais été à Wall Street. Et à Wall Street, devant Wall Street, qui est la place mondiale du marché financier, du dieu argent, quoi. Eh bien, il y a un taureau. Alors, c'est symbole de la puissance, mais un énorme taureau avec des bonnes machins et puis des grandes cordes. Et c'est un ruminant, quoi. Alors, c'est pas un veau, mais c'est un métal fondu, c'est de l'étain ou du bronze ou je sais pas ce que c'est. Mais c'est, il est massif, il est là. Et tu dis, ah mon Dieu, est-ce qu'ils ont pensé à ce qu'ils faisaient quand même au lieu de l'idolâtrie de l'argent et du pouvoir et de... Ils ont mis le veau d'or. Enfin, il n'est pas en or, mais ils ont mis le veau. Ouais. Ils ont mis le taureau. Bon, c'est un symbole de puissance, mais c'est quand même... J'ai dit, ah, incroyable ça. Et ils l'adorent, mais oui. Donc oui, là, je me racontais l'histoire qu'il y avait une espèce de pentecôtiste ou évangélique ou je ne sais pas quoi, un jeune qui était plein de zèle pour annoncer le Christ, mais il l'annonçait d'une manière très très maladroite, du style « Convertissez-vous, vous allez tous aller en enfer !» Et je m'étais un peu pris la tête avec lui, parce que voilà. Bref, parce que j'étais un catholique, donc j'étais dans le péché. C'était assez, assez, assez drôle. Tu dis, mais mon ami, je sais pas qui va aller en enfer, mais en tout cas, avec ton jugement, tu commets un bon gros péché comme ça. Quoi. C'était assez drôle comme moment. Bon, en tout cas, il y avait ce métal fondu. On va demander au Seigneur que nous puissions, je ne développe pas parce que c'est l'heure d'arrêter, mais cette histoire de veau, ils sont sur l'Horeb, la montagne de... C'est intéressant ce que dit le psaume. À l'Horeb, ils fabriquèrent un veau, ils adorèrent un objet de métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire, Dieu, pour l'image d'un taureau, un ruminant. À l'Horeb, dans le lieu saint où je rencontre Dieu, à la montagne sainte, ça veut dire que notre idolâtrie, elle atteint le spirituel en nous. C'est pas anodin, c'est pas ailleurs, c'est dans le lieu saint que l'idolâtrie vient faire un échange. Et l'idolâtrie, c'est ça. C'est je troque la gloire que Dieu me donne. Et Dieu a tout accompli, donc il m'a donné le salut, la justice, sa sainteté et sa gloire qui m'unifie à lui pour que je vive et que je suive les commandements pour amener cette réalité spirituelle dans ma vie humaine naturelle qui est, elle, un peu handicapée par le péché, mais que je dois convertir tous les jours par l'offrande de moi et de mon obéissance. Okay. Et je peux très vite changer ça, cette gloire et cette identité de fils, contre un métal, c'est-à-dire l'œuvre de mes mains. Je vais adorer l'œuvre de mes mains. Dieu en parle comme eux, en vérité, ils ont fondu tout leur or, c'est un veau en or, et Dieu en parle comme un métal fondu. Je trouve que c'est bien la distinction. Ce qui pour nous a beaucoup d'argent n'a aucune valeur pour Dieu. Ce qui pour nous a beaucoup de valeur, et qu'on met en premier, on fait un espèce de machin, on en fait l'œuvre de nos mains, et fut-elle spirituelle encore une fois, n'a aucune valeur pour Dieu, c'est du métal fondu. Alors que nous on dit c'est de l'or, et Dieu dit c'est du métal. T'as troqué la gloire que je te donnais pour du métal. T'as troqué mon œuvre, c'est moi qui agis, si tu te laisses faire, pour ton œuvre, pauvre et petite et misérable, qui ne peut pas te sauver. Attention donc, dans tous les domaines de notre vie, à ce qui prend la place de Dieu, fût-ce
notre propre attitude religieuse, de notre propre exercice religieux qui peut nous satisfaire nous-mêmes. Mais il y a plein d'autres choses qui prennent la place de Dieu. Moi, déjà, je prends la place de Dieu parfois. Et c'est le principal veau. D'ailleurs, on est un peu des veaux quand on prend... Hein, un ucrède, c'est le bœuf qui a un truc sur... Comment on appelle ça? Un joug sur les épaules. Ucrède. Il y a moi, il y a l'argent, il y a le sport, il y a la télé, parfois il y a même la famille. Quand ça prend vraiment la place de Dieu, c'est-à-dire que j'ai pas le temps pour Dieu. Quand j'ai plus le temps, ou vous savez, on a toujours le critère qui fait mal pour l'idolâtrie, c'est là où je mets le plus de temps et le plus d'argent. C'est-à-dire, c'est ce qui me... Voilà. Donc, c'est sans cesse à convertir, ça. En tout cas, moi, j'essaye de le convertir, mais c'est sans cesse à convertir, parce que c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Ça reprend toujours la place. Ouais, accepter de perdre pour gagner dans le trésor du ciel. Et donc, du coup, demandons au Seigneur que, en humilité devant Dieu, demandons en humilité devant Dieu qu'on puisse ne pas laisser une idolâtrie dans notre cœur s'installer, mais vraiment désirer cette gloire, accueillir ce témoignage du Père dans notre cœur, hein, dans l'aspect prophétique de Jean-Baptiste, dans l'œuvre du Père et la parole du Père que nous puisons, dans la parole de Dieu, hein, et dans cette gloire qui atteste par l'expérience que nous sommes enfants de Dieu. Amen.
Amen. Amen.